Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette rediffusion des meilleurs moments d'accent. Avec tout d'abord ce reportage dans une crèche danoise qui cherche à gommer les stéréotypes attachés au genre, l'armée finlandaise qui recrute de plus en plus de femmes, une visite de la chapelle Sixtine de l'art paléolithique, le morceau choisi de notre pape de la pop. Mais tout d'abord, un, dos, tres, on déstresse. Listen, working 9 to 5 and you're putting it overtime. Your life was a Hollywood flick, but now we went black and white. They got you all stressed out, all work, no fun. It ain't no shame if you wanna get out. Push it up, cause you came to thrive. Take that shot and call it your life. Encore mieux que la cigarette, le sudoku ou les mots fléchés pour se détendre. La tendance nous vient des Pays-Bas, des livres de coloriage pour adultes qu'on trouve désormais un peu partout en Europe, Sabine Sessou.
Dans le train ou les cafés, on peut voir des dames ou des retraités remplir des pages et des pages de motifs géométriques au crayon de couleur, le plus sérieusement du monde. Il n'y a pas d'enfants en vue autour de ces activités. Le livre de coloriage dont il est question et fait pour les adultes, ces motifs sont conçus pour reposer l'esprit et favoriser la méditation en arrêtant le flot des pensées. Un succès absolu, même si on n'en vient pas à bout facilement. Assez épais, ce livre compte 144 pages de motifs géométriques ou floraux, très répétitifs. Le succès de ce livre montre que les Pays-Bas, depuis Rembrandt, n'ont rien perdu de leur goût très prononcé pour les arts graphiques. Ce livre de coloriage est une idée originale de l'artiste Grit Asnot, d'abord mise en œuvre par sa fille, Annelies Bakker, qui travaille dans l'art à Berlin. À 29 ans, cette jeune femme a eu l'esprit d'entreprise assez éveillé pour créer sa propre maison d'édition pour mettre ses livres sur le marché. Seul problème, un grand éditeur a repéré la tendance pour faire un produit dénommé le seul vrai livre de coloriage pour adultes. Un produit meilleur marché, 9,95€ très exactement. Le premier tome est sorti en octobre 2013, il s'est vendu comme des petits pains. Le second tome n'a pas tardé en février. On le trouve en tête de gondole de toutes les librairies. D'autres sont annoncés par de nouveaux éditeurs, cette fois sur des thèmes divers et variés. Paris, les papillons, etc. Mieux que le téléphone portable, le crayon de couleur reprend ses droits, du moins aux Pays-Bas.
En France, on a beaucoup débattu il y a quelques mois de la théorie du genre, supposé programme qui viserait à manipuler les enfants sur leur identité sexuelle. Un débat qui a gommé l'un des véritables enjeux des gender studies développés aux États-Unis, se questionner sur la façon dont la société associe les rôles à chaque sexe. La Scandinavie est souvent citée en exemple en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Depuis quelques années, une crèche de Copenhague cherche à casser ses représentations de genre. Une égalité des genres qui renforcerait aussi l'égalité des chances. Au Danemark, reportage de Sungshim Courrier.
De l'extérieur, rien ne différencie cette crèche des autres installées dans ce quartier de Copenhague. Pendant que les petites Valencia et Silje grimpent sur les chevaux de bois dans le jardin, Silas, un petit garçon de 5 ans, découpe les lettres de l'alphabet. La méthode est subtile, il faut tendre l'oreille pour se rendre compte que nous sommes dans l'unique crèche du Danemark où l'on met l'accent sur l'apprentissage de l'égalité des genres. Ici, on laisse les enfants choisir librement leurs jouets et leurs vêtements, loin des contraintes et des jugements sociaux. Signe est une des éducatrices de cette crèche, la planète Terre, qui compte une petite trentaine d'enfants.
Nous voulons voir les enfants comme des enfants et non comme des garçons ou des filles. Concrètement, ça veut dire que nous évitons d'utiliser les termes filles et garçons. Les filles, venez, les garçons, on va jouer au foot, les filles, on va faire des colliers de perles. Le mot revient parfois naturellement. naturellement, mais c'est quelque chose dont nous parlons souvent et que nous essayons de ne pas faire. Et c'est propre à notre institution. Quant aux activités, elles sont pensées pour tous les enfants et pas pour un genre déterminé.
Mais l'apprentissage va aussi plus loin, jusque dans le choix des contes pour enfants dans lesquels on retrouve de nombreux stéréotypes, notamment du point de vue des rôles. Sine élargit les lectures des habituels contes de fées à d'autres formes d'histoires, des histoires dans lesquelles on retrouve des familles avec deux mamans, mais sans pour autant mettre de côté les contes classiques.
Je pense que c'est un peu difficile de s'en passer, mais par exemple, on joue souvent à partir d'une chanson qui parle de la Belle au bois dormant, parce que les enfants l'adorent. Les enfants chantent qu'une fée lui a jeté un sort et que c'est pour ça qu'elle dort jusqu'à l'arrivée du prince. Et c'est vrai qu'on retrouve dans ce jeu tous les stéréotypes classiques des genres. Mais on s'arrange pour que chaque enfant puisse être la Belle au bois dormant, la fée ou le prince qui réveille la Belle. Donc on essaye de travailler sur les différents rôles de cette manière.
Man prøver nogle forskellige roller af på den måde.
Anne-Marie est la maman d'une petite fille qui fréquente la crèche depuis 2 ans. Ce genre d'institution, elle l'attendait depuis longtemps au Danemark. Elle constate que la méthode aide son enfant à développer sa personnalité.
La question est de savoir ce qu'elle veut et qu'elle ait plus de possibilités dans la vie. Si elle a envie de rose et que c'est elle qui choisit un pull rose le matin, alors je lui dis « d'accord, vas-y, je ne l'empêche pas ».
Alors qu'est-ce que tu pourrais répondre à ceux qui disent que ce genre de pédagogie, c'est un peu gommer les différences entre les sexes?
Je pense que cette pédagogie enseigne exactement le contraire. Nous sommes tous différents. La question n'est pas de vouloir que tous les enfants soient pareils ou d'effacer leurs différences. Au contraire, il s'agit de donner la possibilité aux enfants de pouvoir choisir qui ils sont et qu'aucun d'eux ne se sente rejeté s'ils n'entrent dans aucune catégorie de la société.
Kirstine est à l'initiative du travail sur le genre appliqué au jardin d'enfants. Elle est la directrice de la crèche depuis 2006.
On peut voir que cette pédagogie a fait ses preuves, que les enfants deviennent plus autonomes, qu'ils développent leur personnalité et font des choix indépendamment de leur sexe. Je voudrais tellement que notre projet soit soutenu et étendu au niveau national. Il faudrait qu'on développe davantage de projets comme le nôtre, qu'on fournisse du matériel adéquat, qu'il y ait des séminaires organisés pour les éducateurs, mais pour ça, il faudrait que le genre soit à l'agenda de la formation du personnel dans les crèches.
Au Danemark, cette pédagogie de neutralité du genre divise l'opinion. Les opposants accusent la méthode de nier la masculinité ou la féminité des enfants. Les autres, au contraire, pensent que cette approche est le seul moyen de s'attaquer au cœur du problème d'inégalité entre les hommes et les femmes, notamment dans le milieu professionnel. La discussion est toujours en cours et n'a pour le moment mené à aucune décision politique au Danemark, à l'inverse de la Norvège où le gouvernement a fait de cette pédagogie du genre un axe de sa politique officielle pour l'égalité des chances.
En Finlande, l'égalité des chances et du genre ne se discute plus, en tout cas dans l'armée. Chaque année, plus de 20 000 jeunes adultes finlandais doivent accomplir leur service militaire obligatoire. Les Finlandaises, elles, en sont exemptées, sauf si elles se portent volontaires pour rejoindre une unité. Des femmes que l'armée finlandaise voudrait recruter en plus grand nombre. Pauline Curtet a franchi les portes d'une caserne.
Allez, viens. Sur la base militaire de Santa Hamina, située près d'Helsinki, le lieutenant Marika Nykänen ne passe pas inaperçu. C'est une femme. À peine trentenaire, elle a 36 soldats sous ses ordres. Sa mission, former ses conscrits, appelés sous les drapeaux pour un minimum de 6 mois, aux techniques de la police militaire. Pour la jeune femme, se porter volontaire au service militaire, puis faire carrière au sein de l'armée, était un choix évident.
J'ai accompli mon service militaire en 2004. Je n'ai pas beaucoup réfléchi avant de prendre ma décision. Depuis toute petite, je voulais entrer dans l'armée. D'ailleurs, j'ai bien essayé de faire des études de droit, mais je les ai vite abandonnées. L'armée, c'est plus stimulant, plus physique. On peut travailler dehors et faire autre chose que de la théorie. Bref, c'est ce qui me convenait depuis le début et c'est pour ça que j'ai décidé de devenir officier.
Chaque année, plus de 20 000 jeunes adultes accomplissent leur service militaire en Finlande. Depuis 1995, les filles ont aussi le droit de porter les armes, sans obligation. Chaque année, elles sont entre 700 et 800 à se porter volontaires pour rentrer dans les rangs de l'armée. Environ la moitié est retenue après un examen de leur dossier et des tests physiques. Le plus souvent, elles accomplissent la durée maximale de la conscription, 347 jours, alors que 255 jours suffisent dans la plupart des cas. Aujourd'hui, la défense finlandaise aimerait voir plus de candidates postuler au service militaire. Une opération pilote vient d'être lancée dans la région de Tampere, au sud de la Finlande. Près de 5000 jeunes femmes âgées de 18 à 20 ans vont recevoir un courrier les encourageant à rejoindre les rangs de l'armée. Le lieutenant-colonel Petteri Soini suit cette opération de près. Il explique pourquoi il souhaite que plus de filles servent sous le drapeau finlandais.
Les filles sont en général très très motivées par leur service parce qu'elles sont volontaires. Alors, les filles, ils offrent également des hommes un environnement compétitif pour obtenir de meilleurs résultats de la formation. Parce que tous les garçons, ils voudraient faire un peu meilleur que les femmes.
Mais pour l'armée finlandaise, la présence de filles dans ses rangs n'est pas qu'une manière d'améliorer les performances des hommes. En effet, la Finlande s'engage de plus en plus sur des terrains internationaux, comme au Liban ou en Centrafrique, et a besoin de plus de femmes pour accomplir des missions de maintien de la paix. De là à rendre le service militaire obligatoire pour le sexe féminin en Finlande, comme c'est le cas depuis l'an dernier chez son voisin norvégien, sûrement pas. Le débat ne se pose pas vraiment dans le pays nordique, car une conscription féminine coûterait beaucoup trop cher au gouvernement. Et puis, reste ceux qui doutent des capacités physiques des femmes à participer à certaines missions de l'armée. Eero a récemment terminé son service militaire dans une section chargée de construire des ponts et des bombes dans l'urgence, en cas de guerre.
Il n'y avait pas de femmes dans ma section. Je pense que leur présence n'aurait pas changé ma façon de travailler, mais ce que nous faisions, c'était très dur physiquement. Je ne suis pas sûr qu'une femme soldat aurait pu durer dans une telle unité. Cela dit, les femmes qui participent volontairement au service militaire sont très motivées. Elles veulent montrer qu'elles sont les meilleures. C'est donc possible qu'elles arrivent à se dépasser. Mais je ne connais pas beaucoup de filles qui voudraient faire ça.
Lorsqu'elle se souvient de son service militaire, le lieutenant Marika Nykänen, elle, a le sourire.
Au début, mes collègues masculins se demandaient si je pourrais suivre le rythme, car en plus d'être une fille, je suis très petite. Ils me demandaient « T'es sûre? Tu veux aller là-bas? Tu vas y arriver ?» Mais j'étais habituée à m'entraîner quasi quotidiennement et j'ai pu leur montrer que je pouvais me débrouiller. Aujourd'hui, être une femme dans l'armée est même un avantage pour moi. Les hommes que je dirige me respectent plus que si j'étais de sexe masculin. Peut-être parce qu'il y a moins de rivalité entre nous.
Si l'expérience de recrutement dans la région de Tampere donne de bons résultats, elle devrait être étendue au reste de la Finlande dès l'an prochain. De quoi inspirer de nouvelles vocations chez les jeunes finlandaises.
Ils sont quelques privilégiés tirés au sort à pouvoir redécouvrir les peintures paléolithiques de la grotte d'Altamira, au nord de l'Espagne. Une réouverture au compte-gouttes, mais déjà contestée, Martine Pouchard.
Ce sont des privilégiés choisis au hasard. Ils étaient 5 venus d'un peu partout en Espagne et ce sont les premiers depuis 12 ans à redécouvrir la grotte. Leurs premières impressions ont été recueillies après la visite. Les peintures semblent avoir été faites hier, ont raconté ces témoins privilégiés et impressionnés face à ces bisons, cerfs et chevaux peints sur les murs de la grotte. Ils ne seront pas les seuls à faire la visite puisqu'à partir de maintenant, chaque semaine, 5 personnes pourront comme elles contempler le site. Le rituel sera le même, un tirage au sort. Les élus devront se soumettre à un certain protocole, revêtir des combinaisons isolantes, se munir de gants, de bonnets pour éviter que ne se reproduise le même scénario que dans les années 80, la contamination par des micro-organismes qui grignotaient la pierre. Alors il a fallu ausculter la grotte, prendre toutes les dispositions possibles pour autoriser la réouverture d'Altamira, l'un des 3 grands sites de l'art paléolithique au monde. Certains parlent même de chapelle Sixtine du genre classée au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1985. La grotte a été découverte en 1868 par un chasseur qui tentait de libérer son chien retenu prisonnier dans un amas de pierres. Les experts de l'époque, surtout français, ont longtemps douté de l'authenticité des peintures jugées trop réalistes. Les visites vont permettre de tester l'impact de la présence humaine sur les peintures. Les chercheurs vont mesurer la température de l'air, de la roche, de l'humidité, la pollution. Les experts rendront ensuite leur verdict. D'ores et déjà, la polémique est servie, puisque nombreux sont ceux qui militent pour la fermeture définitive de la grotte.
Music. Et comme chaque jour de l'été, on retrouve Vincent Théval pour sa pop estivale.
Nous allons faire aujourd'hui un peu plus de bruit que d'habitude avec un groupe grec, The Kalas. Comme la cantatrice qui était tout aussi grecque, c'est sans doute son seul point commun avec le quatuor, emmené depuis 2004 par deux frères, Lakis et Haris Yonas. La formule est simple comme au bon vieux temps du punk. Guitare, basse et batterie sont mobilisées pour des chansons brutes et efficaces, sans doute moins originales que la démarche du groupe puisque The Kalas donne aussi dans les arts visuels, performance, installation, chorégraphie ou film. Les Grecs sont sur tous les fronts, ils sont à l'aise sur scène comme dans les galeries d'art contemporain. Leur dernier album est joliment titré Am I Vertical, c'est aussi le titre de la chanson que je vous propose.
La pop estivale de Vincent Théval, une trentaine de titres à savourer tout de suite sans modération sur notre page spéciale à l'adresse d'Accent d'Europe, émission réalisée et mise en onde par Françoise Grelot.